Chapitre 3. En descendant les marches, Martin Eden fouilla dans sa poche. Il en sortit du papier de riz brun, une pincée de tabac mexicain et roula une cigarette. Il inspira profondément la première bouffée et l'exhala avec lenteur. « Tu Dieu !» fit-il, interdit et émerveillé. « Tu Dieu !» répéta-t-il, et encore une fois murmura « Tu Dieu !» Puis il arracha son faux col et le fourra dans sa poche. Malgré la bruine froide qui tombait, il se découvrit la tête, déboutonna sa veste et trottina avec une superbe insouciance. C'était à peine s'il remarquait qu'il pleuvait. Il était dans un état second et recréait en rêve les scènes qu'il venait de vivre. Il avait enfin rencontré la femme, celle qu'il attendait confusément depuis toujours sans vraiment y penser, car il n'avait guère le temps de penser aux femmes. Il avait été assis à côté d'elle à table. Il avait senti sa main dans la sienne et avait pu admirer le bel esprit qui brillait dans son regard, presque aussi beau que les yeux qui le reflétaient et la chair qui lui donnait sa forme. Il ne pensait pas à sa chair en tant que telle, ce qui était nouveau pour lui car jusqu'alors il n'avait considéré les femmes que sous cet angle. Sa chair, à elle, était différente. Son corps n'était pas un corps soumis aux maux et aux pesanteurs des corps. Il n'était pas seulement l'enveloppe de son esprit, il en était l'émanation, la pure et gracieuse cristallisation de son essence divine. La notion de divin le secoua et le tira brusquement de sa rêverie pour le ramener à des pensées plus sobres. Il ne se reconnaissait plus. Il n'avait jamais cru en Dieu. Il avait toujours été irréligieux et se gaussait joyeusement des bigots et de leur immortalité de l'âme. « Il n'y avait pas de vie après la mort », clamait-il. « La vie, c'était ici et maintenant. Après, c'était les ténèbres éternelles. » Et pourtant, c'était bien une âme qu'il avait vue dans les yeux de cette fille. Une âme à jamais immortelle. Aucun des hommes, aucune des femmes qu'il avait connues ne lui avait transmis le message de l'immortalité. Elle, oui. Elle le lui avait murmuré dès le premier instant où elle l'avait regardé. Son visage chatoyait comme un mirage sur son chemin, pâle et grave, doux et sensible, souriant comme seul un esprit pouvait sourire, et plus pur que l'idée même de pureté. Encore une notion qui le secoua. Il connaissait le bien et le mal, mais la pureté, en tant qu'attribut de l'essence, n'avait jamais effleuré son esprit. Et voilà qu'à travers elle, il concevait la pureté comme le superlatif du bien et de la vertu, l'entité constitutive de la vie éternelle. Et, aussitôt, la vie éternelle devint son ambition. Il n'était pas digne d'être son porteur d'eau, il le savait, c'était un miracle, un fantastique coup du sort qui lui avait permis de la voir, de la côtoyer, de lui parler ce soir. C'était fortuit. Il n'y était pour rien. Il ne méritait pas une telle bonne fortune. Voilà tout à coup qu'il était plein de religiosité, d'humilité, de déférence et d'abnégation, et se sentait repentant comme un pécheur au confessionnal. Mais de même que le plus humble et le plus mortifié des pénitents entrevoit la splendeur de l'au-delà, de même il entrevoyait l'avenir glorieux qu'il attendait s'il parvenait à la posséder. Toutefois, cette possession d'elle lui apparaissait nébuleuse et totalement différente de l'idée qu'il s'en était faite jusqu'alors. Son ambition prenait son essor dans un battement d'ailes fou, et il se voyait avec elle au sommet d'une montagne, communiant avec ses pensées et partageant le même sens de la beauté. Il rêvait d'une possession spirituelle, d'un raffinement suprême, d'une espèce de camaraderie intellectuelle qui lui semblait indéfinissable parce que tout cela n'était pas raisonné. Ce n'était que des sensations, vagues mais pénétrantes, des émotions inconnues qui le faisaient dériver délicieusement sur une mer de sensibilité où la sensibilité elle-même était comme spiritualisée et amplifiée par le vertige des profondeurs. Il titubait comme un homme ivre en marmonnant à voix haute « Tu Dieu ! Tu Dieu !» Un policeman, qui le lorgnait d'un œil soupçonneux au coin d'une rue, lui lança, alerté par sa démarche chaloupée, « T'en tiens une bonne, on dirait !» Martin Eden redescendit sur terre. Il avait une grande souplesse de caractère qui lui permettait de glisser avec légèreté d'une humeur à l'autre, et il s'adapta aussitôt à la situation. « C'est du joli, hein » répliqua-t-il en riant. « Je ne me rendais pas compte que je parlais tout seul. » tout à l'heure tu chanteras, fut le diagnostic de l'agent. Nenny, passez-moi une allumette et je saute dans le prochain tram. Il alluma sa cigarette, dit bonne nuit et passa son chemin. Alors ça, c'est le bouquet, grommela-t-il dans sa barbe. Ce flic croyait que j'étais saoul. Il médita en souriant. Peut-être bien que je l'étais. Et il ajouta, mais je savais pas qu'un visage de femme pouvait saouler. Dans Telegraph Avenue, il attrapa un tram pour Berkeley, bondé de jeunes gens qui chantaient des chansons et beuglaient des slogans d'étudiants. Il les observa avec curiosité. C'étaient des gars de l'université. Ils fréquentaient la même université qu'elle, appartenaient à la même classe sociale, la connaissaient peut-être, et pouvaient la voir chaque jour s'ils le voulaient. Alors, comment avait-il pu préférer festoyer ensemble, ce soir, plutôt que d'aller la trouver, lui parler et se presser en cercle autour d'elle pour la vénérer? Il devint songeur. L'un d'eux avait des yeux chafouins et la lip pendante. « Ce gaillard-là était vicieux, » décréta-t-il. À bord d'un bateau, ce serait un tir au flanc, un pleurnicheur, une mauvaise langue. Lui, Martin Eden, il valait mieux que cet oiseau-là. Voilà une vérité qui lui remettait du baume au cœur, parce qu'elle semblait le rapprocher d'elle. Il commença à se comparer aux étudiants. Physiquement, ils ne faisaient pas le poids, aucun doute là-dessus. Seulement, leur tête était pleine de connaissances qui leur permettaient de parler le même langage qu'elle, et cette pensée le déprima. Mais n'avait-il pas une cervelle, lui aussi? Que diable! Ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient le faire. Pendant qu'ils apprenaient la vie dans les livres, lui, il vivait. Son cerveau était aussi rempli que le leur, mais de choses différentes. Combien d'entre eux savaient étarquer un cordage, tenir une barre, assurer une vigie? Sa vie était un album d'images, plein de périls et d'audaces, de peines et de labeurs. En se remémorant les échecs et les déboires de ses années d'apprentissage, il se dit que c'était autant de gagner sur eux, qui avaient encore tout à découvrir. À eux d'endurer ça maintenant. Pour lui, c'était fait. Et, pendant qu'il se frotterait aux réalités de l'existence, il pourrait à son tour étudier l'autre versant de la vie dans les livres. Tandis que le tram traversait la zone d'habitation clairsemée qui séparait Oakland de Berkeley, il cherchait des yeux un immeuble familier, à un étage, sur la façade duquel s'étalait la fière enseigne, magasin, Higginbotham. Martin Eden descendit à l'arrêt correspondant et s'attarda un instant devant l'enseigne. Ces deux mots revêtaient une signification particulière pour lui. Tout un monde de petitesse, d'égoïsme et de sournoiserie semblait émaner de ses lettres. Bernard Higginbotham avait épousé sa sœur et il le connaissait bien. Il ouvrit le verrou et grimpa à l'étage. C'était là que vivait son beau-frère. L'épicerie était en bas. Une odeur de légumes fanés flottait dans l'air. En cherchant son chemin à tâtons dans le hall, il trébucha sur un jouet à roulettes, abandonné là par un de ses nombreux neveux et nièces, qu'il envoya buter avec un choc sonore contre la porte. « Quel radin !» se dit-il. « Il préfère que ses pensionnaires se cassent le cou plutôt que de brûler 2 cents de gaz. » Il trouva le bouton de la porte à l'aveuglette et entra dans une pièce éclairée, où étaient assis sa sœur et Bernard Higginbotham. Elle reprisait un pantalon de son maigrichon de mari, lequel occupait 2 chaises à lui seul, avachi, les pieds ballants dans des chaussons élimés. Il loucha par-dessus le journal qu'il était en train de lire, révélant une paire d'yeux noirs, fourbes et perçants. Martin Eden ne pouvait jamais le regarder sans répulsion. Il ne comprenait pas ce que sa sœur lui trouvait. Pour lui, ce n'était qu'une vermine. Il avait envie de l'écraser sous sa semelle. « Un jour, faudra que je lui casse la figure », se disait-il souvent pour se consoler. Les yeux de Fouine le regardaient d'un air mauvais. « Quoi encore ?» fit Martin. « Accouche !»«
J'ai fait repeindre cette porte la semaine dernière, » dit Higginbotham, mi-plaintif, mi-acerbe. « Et tu sais ce que me coûte le syndicat. Tu pourrais faire attention. »
Martin préféra ne pas répliquer. « À quoi bon ?» Dégoûté, il détourna le regard pour contempler un chromo sur le mur en face. C'était étrange. Lui qui avait toujours aimé cette image, il la trouvait tout à coup minable, comme tout le reste dans cette maison. Ses pensées le ramenèrent vers la demeure qu'il venait de quitter. Il revit d'abord les tableaux, puis elle et son doux regard lorsqu'elle lui avait tendu la main. Il en oublia où il était et eut oublié jusqu'à l'existence de Bernard Higginbotham, si le triste sire ne lui rappelait au présent en demandant « T'as vu un fantôme ?» Martin le regarda dans les yeux. Ses yeux globuleux de lâche, à présent railleurs et arrogants, mais qui, lorsque le même homme faisait une vente en bas, redevenaient serviles, côteleux et mielleux. « Oui, répondit-il, j'ai vu un fantôme. Bonne nuit. Bonne nuit, Gertrude. » Il tourna les talons et achoppa sur un accroc du tapis miteux. « Ne cogne pas la porte !» lança Higginbotham. Il sentit le sang lui monter aux tempes, mais se contrôla et referma doucement la porte derrière lui. Higginbotham se tourna vers sa femme, exultant. « Il a bu !» affirma-t-il d'une voix grasseyante. « Je t'avais dit qu'il buvait !» Elle acquiesça avec résignation. « Il avait les yeux brillants, reconnut-elle, et il n'avait plus le col qu'il avait mis en partant. Il a peut-être bu un verre ou deux, mais sans plus. Il tenait pas debout. Je l'ai bien observé. Il titubait. Tu l'as entendu toi-même tomber dans le hall. Il a dû trébucher sur le chariot d'Alice. Il ne pouvait pas le voir dans le noir. » M. Higginbotham s'emporta. Toute la journée, il courbait l'échine dans son échoppe, se réservant le privilège d'être lui-même, le soir, avec sa famille.
« Je te dis que ton petit frère chéri était saoul !»
trancha-t-il d'une voix froide, incisive et sans appel, en martelant chaque mot comme d'un coup de boutoir. Son épouse soupira en silence. C'était une femme épaisse et corpulente, toujours mal fagotée, qui semblait éternellement ployée sous le fardeau de ses chairs, de son labeur et de son mari.
« Il a ça dans le sang, je te dis, comme son père, » poursuivit M. Higginbotham, vindicatif, « et il finira comme lui dans le caniveau, tu le sais bien. »
Elle soupira de nouveau et reprit son ouvrage. Il était entendu que Martin était rentré saoul. Si leur âme eût été moins hermétique à la beauté, ils eussent reconnu dans ses yeux brillants et ce visage radieux le premier émoi amoureux de la jeunesse.
« Un joli exemple pour les enfants, » pesta M. Higginbotham pour dire quelque chose.
Il n'aimait pas voir sa femme silencieuse et eût presque préféré parfois qu'elle le contredît.
« S'il recommence, faudra qu'il s'en aille, compris ? Je ne le laisserai pas débaucher des enfants innocents avec ses beuveries !»
M. Higginbotham aimait ce mot, nouveau dans son vocabulaire, qu'il avait récemment glané dans un article de journal.
« Parfaitement ! Débaucher ! Il n'y a pas d'autre mot !»
Sa femme soupirait toujours et hochait tristement la tête en cousant. Il reprit sa lecture.
« Est-ce qu'il a payé sa pension de la semaine, au moins ?»
Elle acquiesça. « Il a encore de quoi, » répondit-elle.
« Quand est-ce qu'il retourne en mer ?»«
Quand il aura dépensé sa paie, je suppose. Il est allé à San Francisco hier pour chercher de l'embauche. Mais il lui reste des sous et il est difficile sur le choix des bateaux.
Parce qu'en plus, il se permet de faire le difficile, ce moussaillon. On aura tout vu. »
Il a parlé d'une goélette qui se préparait à partir pour une terre lointaine en quête d'un trésor caché. Il a dit qu'il serait de l'équipage si ses économies lui permettent de tenir jusque-là.
« Si seulement il voulait se ranger, je lui donnerais de l'ouvrage. Il pourrait conduire la carriole !»
dit le mari, mais sans la moindre trace de bienveillance.
« Tom, me laisse tomber !»
Sa femme, alarmée, l'interrogea des yeux.
« Il m'a lâché ce soir, il va travailler pour Carruthers. Il le paie au-dessus de mes moyens. »«
Je t'avais dit que tu le perdrais, » s'écria-t-elle. « Il valait plus que ce que tu lui donnais. »
« Oh là, doucement la vieille !» gronda Higginbotham. « Je t'ai dit mille fois de ne pas te mêler de mes affaires, je te le répéterai pas. Je m'en fiche, Tom était un bon garçon !»
Il la fustigea du regard. « Quelle insolence !»«
Si ton vaurien de frère valait le pain qu'il mange, il se chargerait de la carriole.
Il paie sa pension tout de même. Et puis c'est mon frère. Et tant qu'il ne te doit pas d'argent, tu n'as pas le droit de t'en prendre tout le temps à lui. J'ai encore du sentiment, même après 7 ans de mariage avec toi. »
« Tu lui as dit que tu lui ferais payer son gars s'il continue à lire au lit ?»
Madame Higginbotham ne répondit pas. Sa révolte retomba, comme sa chair flétrie. Son mari triomphait, l'œil mauvais, et, sentant qu'il la tenait sous sa coupe, se réjouissait de ses sanglots. Il prenait un malin plaisir à l'humilier, et elle s'inclinait facilement ces jours-ci. Elle ne résistait plus comme au premier temps de leur mariage, lorsque la marmaille et les incessants sarcasmes n'avaient pas encore sapé son énergie.
« Eh bien, tu lui diras demain, » reprit-il. Et pendant que j'y pense, faudra pas oublier d'envoyer chercher Marianne pour garder les enfants. Maintenant que Tom est parti, je serai dehors toute la journée avec la carriole. Alors mets-toi bien dans la tête que ce sera à toi de tenir le comptoir.
Mais demain, c'est jour de lessive, protesta-t-elle faiblement.
T'as qu'à te lever tôt et t'auras le temps de la faire avant. Je partirai pas avant 10 heures.
Il défroissa malicieusement son journal et reprit sa lecture.